Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h passées de 18 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et c'est la dernière étape de cette semaine que nous avons entièrement consacrée à la lettre. Petit retour rapide sur les jours écoulés. Lundi, nous évoquions la place singulière qu'occupent les lettres et la correspondance dans les œuvres littéraires. Mardi, nous nous plongions dans la correspondance de deux philosophes, Jean Kelevitch et Bauduc, correspondance de 60 ans, amicale et philosophique, en ce moment portée sur scène par le comédien Bruno Abraham Kremer. Hier, nous dévions un peu de ce premier sens en écoutant Pierre Lory évoquer la science des lettres en islam et le pouvoir conféré au signe de l'alphabet, tandis que mercredi, nous évoquions le beau métier d'écrivain public. Aujourd'hui, nous confions une carte blanche musicale et sonore à un auteur concerné par les lettres, donc, mais aussi à un lecteur plasticien qui, dans ses performances sur scène, leur réserve parfois un sort bien à lui. Quel ne fut pas mon étonnement ému la première fois que je vous ai entendu, vu, lire à l'espace Chiasma des Lilas, Jérôme Gamme, en voyant les lettres glisser, être avalées, puis recrachées en slide, en voyant les lettres devenir microfilms à l'intérieur même de la matière textuelle, en supposant que chacune des lettres composant le verbe et le mot pouvait dans votre voix acquérir une indépendance magique et la potentialité de perturber tout un champ sémantique, d'emmener la langue presque en dehors d'elle-même. C'est donc fort consciemment que nous vous laissons les rênes sonores de l'heure qui vient. Bonjour et bienvenue chez vous, Jérôme Gamme.
Bonjour.
On va commencer par parler de ce mot qui nous a occupés tous, toute l'équipe pendant 5 jours et tous les invités qui sont passés à cette table. À quoi vous renvoie, vous, le mot « lettre » ?
Sans doute à l'image d'une lettre, et donc à l'image de plusieurs lettres à la fois, et très vite à la phrase. À la phrase et à la capacité de faire des phrases, et à la limite de la phrase. Et donc c'est une tension entre une lettre au sens propre et le fait qu'on apprend petit à petit que c'est pas nous qui les inventons, elles nous préexistent, les lettres. On peut s'en servir, mais c'est pas nous qui les inventons. Il faut donc qu'on les, d'une certaine façon, les apprenne. Pas les apprivoise, mais en tout cas les apprenne, qu'on comprenne comment est-ce qu'elles sont supposées fonctionner. Elles nous préexistent, et elles vont nous survivre. Donc elles sont là, et en même temps elles composent des choses. Très très vite, la lettre c'est quelque chose qui existe purement et simplement avant nous, etc. Mais très vite on peut composer des trucs. Si on ne peut pas inventer des lettres, on peut inventer des compositions de lettres. Et on peut travailler avec la manière dont elles composent des mots et des phrases. Et donc du coup, je pense très vite, quand vous m'interrogez comme ça, la lettre, à quoi elle me fait penser ? Elle me fait penser à la plasticité du langage, à la manière dont il peut morpher, à sa morphologie.
Ça veut dire que vous envisagez la langue avec son apprentissage interminé et interminable comme l'apprentissage de combinaisons plastiques.
Oui.
Entre autres.
Oui, entre autres, mais tout à fait. Comme l'apprentissage interminé et interminable, je suis tout à fait d'accord avec votre façon de le dire, de combinaisons. Et ensuite, oui, elles sont plastiques à plusieurs égards. Elles sont plastiques au sens sonore. Je suis pas trop rentré dans ce qu'on a pu appeler le lettrisme ou un rapport trop graphique à la lettre en tant que telle, parce que ça, à mon avis, ça peut, chez moi, ça aurait poussé un peu trop de fétichisme, et j'ai résisté à ça. Mais plastique au sens dans le rapport que les lettres, que les mots, que la phrase peuvent avoir avec ce qui n'est pas le langage, avec la vue, avec le son, avec d'autres choses. Plastique au sens où ça permet de former des images, oui.
Alors, est-ce c'est style ?
Ouais, ben nous voilà bien.
Alors, qu'est-ce que c'est le style ? Dans Dialogue, tu dis que c'est la propriété justement de ceux dont on dit qu'ils n'ont pas de style. Je crois que tu le dis à propos de Balzac, il me semble me rappeler. Alors, qu'est-ce que c'est un style ?
Eh ben, c'est pas une petite question, ça.
Non, c'est pour ça qu'elle est posée aussi rapidement ?
Ouais, écoute, moi, je me dis ceci. Pour comprendre ce que c'est qu'un style, il faut surtout ne rien savoir de la linguistique. La linguistique, elle a fait beaucoup de mal. Pourquoi elle fait beaucoup de mal ? Parce que il y a une opposition. Là, Foucault l'avait très bien dit, il y a une opposition, c'est même leur complémentarité, entre la linguistique et la littérature. Contrairement à ce qu'on dit, ça ne s'accorde pas du tout. C'est que pour la linguistique, une langue est toujours un système en équilibre, donc dont on peut faire la science. Et le reste, les variations, elles sont mises du côté, non pas de la langue, mais de la parole. Quand on écrit, on sait bien qu'une langue est en fait un système les physiciens diraient, un système par nature loin de l'équilibre. C'est un système en perpétuel déséquilibre. Si bien qu'il n'y a pas de différence, ou il n'y a pas de différence de niveau entre langue et parole, mais la langue est faite de toutes sortes de courants hétérogènes, en déséquilibre les uns avec les autres.
Jérôme Gamme, c'est le premier son que vous portez à cette carte blanche sonore. C'est la voix et le rire bien empreint de tabac de Gilles Deleuze, un extrait de l'abécédaire, à l'entrée S comme style. Pourquoi commencer par ça?
Parce que je trouve que c'est un très beau prologue à ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur la lettre. Et c'est un prologue très riche parce qu'il nous sort d'entrée de jeu, Deleuze le dit très bien, d'une surdétermination de cette terminologie linguistique, on pourrait dire même très vite psychanalytique, un certain univers théorique qui ferait des coupures entre le signifiant et le signifié, qui ferait des coupures entre le langage d'un côté comme seule instance où on pourrait subsumer et expliquer toutes les autres perceptions ou sensations qu'on peut avoir, et de l'autre côté le corps, en gros qui ferait une espèce de dualisme entre le langage comme chose de l'esprit et tout le reste qu'on vit. Et je crois qu'il a bien raison quand il dit que la linguistique n'a rien à voir avec la littérature. Enfin, je ne parle pas de manière générale, s'il y avait un linguisticien, il me dirait à quel point, etc. Mais surtout, ce qui me touche, c'est qu'il parle de variation, de déséquilibre, de courant hétérogène. On a l'impression que c'est un électricien qui est en train de parler du triphasé chez nous, quoi. Et je trouve que c'est une très belle introduction pour dire que, une des choses que je voudrais dire à votre invitation, que ce qui est intéressant avec la lettre, c'est ce qui n'est pas elle. C'est le dehors, littéralement le dehors. Ce à quoi elle ouvre et ce par quoi elle est pénétrée, c'est-à-dire le passage, les degrés, les différentiels d'intensité. C'est une espèce de salle de compensation où on peut exprimer et sentir de la différence pure.
Mais on y met quoi, du coup? Si c'est une lettre qui appelle du dehors ou contient du dehors, ça veut dire que c'est un espace, ça veut dire que c'est un espace qui peut contenir?
Non, on n'y met rien du tout. Et je ne pense pas que ce soit un espace qui peut contenir. Je pense que c'est un instrument, c'est une machine, une machinerie détraquée avec laquelle on peut produire de la relation, produire de la mise en rapport, produire de l'hétérogène. Donc il ne faut pas la remplir. Et c'est marrant, quand vous m'avez dit on peut la remplir, j'ai pensé à un asthmatique. Il se trouve que j'étais asthmatique quand j'étais gamin. Ces histoires de poumons qu'on remplit d'air et qu'il faut sortir, il faut vider d'air et puis tout n'est jamais parti et donc on a des problèmes. Et vous parlez vous-même de la voix. De tabagique, de Deleuze. En fait, Deleuze, il a eu la tuberculose lorsqu'il était plus jeune. Donc c'est marrant ce que c'est. Mais justement, non, pas la remplir, la faire fonctionner en surface, latéralement, à plat, lui faire produire des combinaisons. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être affectée.
C'est ce que j'allais dire, elle peut en revanche être investie.
Très fortement. Mais toujours dans ce jeu. Toujours dans un jeu plutôt que dans une histoire de présence, vous voyez ce que je veux dire, au sens vraiment lourd, ce serait investi au sens où, plutôt, pas au sens d'une substance, quelque chose qui serait dedans comme ça, mais plutôt d'une procédure.
À partir de quand vous avez pu, en tant qu'auteur ou en tant qu'être humain, envisager la langue se décomposant ainsi, se décomposant jusqu'à la lettre, cette petite machinerie avec laquelle on pouvait jouer, qu'on pouvait ôter, qu'on pouvait bégayer, qu'on pouvait faire slider, qu'on pouvait fondre? À partir de quel moment il y a eu ce que j'appellerais moi une autorisation parce que je la trouve belle et libre, mais en tout cas, il y a eu ce déclic-là.
Je vous remercie de le dire comme ça. Je crois que je l'ai senti depuis que j'étais gamin, depuis que j'étais plus jeune, mais que j'ai commencé à le faire lorsque j'ai écrit de la poésie. Et que la poésie, l'acte d'écrire de la poésie est le lieu de cette liberté-là, le lieu de cette force-là, le lieu de cette difficulté aussi.
Mais ce n'est pas une évidence, en revanche.
Voilà, c'est ça. Ça ne va pas du tout de soi. Et d'ailleurs, je n'avais pas prévu de faire ça. J'avais besoin de dire plusieurs trucs à la fois. C'est ça ce qui a fait, pour moi, cette histoire des premières poésies que j'ai écrites, où il y a ce bégaiement, ce rapport à la lettre. C'est comme si vous avez une lime et vous avez envie de faire rentrer plusieurs blocs de trucs dans un espace et ça ne tient pas, il y en a un en trop. Et donc vous limez, vous faites tomber des choses. Vous changez le corps de la lettre, le corps des mots. Vous changez le corps de la phrase. Et au début, j'ai fait ça jusqu'à ce que je comprenne dans les travaux plus récents que ce travail-là, c'est aussi le travail de la prose, le travail du récit, le travail de l'adresse. Aux gens, le début, en poésie, dans ce que j'ai écrit, c'était comment élimer, comment changer la morphologie de la lettre pour dire plusieurs trucs et des mots, pour dire plusieurs choses à la fois ou pour casser la syntaxe telle que je la percevais comme un mot d'ordre. et qui non seulement ne me permettait pas de dire quoi que ce soit, mais commençait à m'étouffer.
Qu'est-ce qu'on casse dans ces cas-là ?
On casse la syntaxe. On casse vraiment la syntaxe. Moi, mon problème, c'est un problème de syntaxe. Ce n'est pas un problème de sémantique. C'est un problème de l'ordre. Que les choses...
Ça n'a rien à voir avec la sémantique, ni avec le sens ?
Non. Ça a à voir plus avec le son. Les effets de sens, ils sont toujours là, mais je préfère, comme dit un très grand poète français qui s'appelle Dominique Fourcade, parler de son sens. Il y a des effets de sens, on est au courant, etc. Mais moi, j'ai pas écrit pour dire du sens. Je savais pas le sens de, comment dire. Il s'agit pas non plus de jouer l'espèce de poète éclairé, comment est-ce qu'on dit, inspiré, que sais-je. Non, il s'agit pas de ça non plus. Mais j'avais pas un problème de sens en tant que tel. J'avais un problème, ou en tout cas, les problèmes de sens se posaient au niveau de la syntaxe. Comment mettre en place, parce que c'est quoi la syntaxe? C'est un corps, c'est une morphologie, c'est une respiration. Comment mettre en place, comme dit une fois de plus Deleuze, un corps sans organes? La poésie, c'est un corps sans organes rapporté au langage, c'est-à-dire aux perceptions, aux sensations qu'on a dans la vie. Comment mettre en place une corporité de cet ordre-là qui puisse tout simplement survivre, enfin ne pas crever, ne pas avoir mal, ne pas...
Mais pas indépendamment de soi. Ça répond à quelle nécessité en tant qu'auteur? Si c'est pas une nécessité de sens.
C'est une nécessité de sens, mais il faudrait s'entendre sur le sens du mot sens. C'est une nécessité de sens au sens pas sémantique ou au sens de signifier, signifiant dans une relation avec un auditeur immédiat. Et je suis conscient que je dis ça à la radio avec des auditeurs, mais c'est une question de sens au sens de...
cherche quand même.
Ça ne fait que ça que chercher, mais un sens... Au niveau non pas immédiat de la signification des trucs, mais au niveau de leur sens plus général, de leur sens de vécu, de vivre, d'existence. Thank you.
Jérôme Gamme, il y a au moins trois piliers de votre pratique qu'on entend là avec, avec cette chanson. C'est le son, la musique, le rythme, le cinéma, déjà, et une langue étrangère. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
C'est vrai, vous avez raison, on entend ces trois choses à la fois. C'est la bande sonore d'un film. On entend de la musique électronique, c'est-à-dire un rythme pur, machinal. Au bon sens du terme, une répétition qui permet de s'évader parce qu'elle structure quelque chose. Et puis on entend cette langue étrangère. Et ce qui me touche beaucoup dans ce morceau et dans d'autres, dans des langues que je ne parle pas.
Donc il faut dire que c'est un morceau de Lim Jung qui s'appelle A Pure Person.
Voilà. Et qui est la bande originale de Millennium Mambo de Hu Hsiao-hsien. Quand j'entends une langue étrangère, bon, il se trouve que là, c'est dans le cadre de cette chanson-là. Bon, on en reparlera sans doute avec le sous-titre et d'autres choses. Ça s'adresse à moi, et pourtant je ne comprends pas ce qui est dit. Mais malgré que je ne comprenne pas, ça s'adresse toujours à moi. Autrement dit, il y a une espèce de flou. Quand j'entends cette langue en particulier, le chinois, j'ai l'impression d'être myope du langage. Mais myope, ça ne veut pas dire être aveugle. Myope, ça veut dire voir, mais voir flou. Flouté. Et flouté dans le sens où les cadres, le cadrage devient beaucoup plus poreux lorsqu'on est myope. Le délinéage entre les choses devient un peu plus problématique. Mais les choses sont là.
Sensation agréable ou désagréable ?
Très agréable. Très agréable. Ça dépend si on est en train de conduire, c'est embêtant. Mais là, c'est agréable au sens fort. Oui, c'est agréable au sens jouissif, mais c'est aussi agréable au sens d'un désir de créer, d'une capacité à créer. Parce que ça permet de... C'est anti-névrotique. Ça enlève ce désir de précision et de... Ils peuvent être un peu... En vous parlant, je m'aperçois que c'est sans doute une autre formulation de ce que je disais auparavant. Il s'agit de
faire péter la syntaxe encore une fois, autrement.
Voilà, autrement. Par quelque chose d'une espèce de fondu enchaîné à l'intérieur des choses qui permettent de faire s'estomper ce que leurs frontières... Il ne s'agit pas d'avoir un problème en tant que tel avec les frontières ou la délination, mais qu'est-ce qu'elles peuvent avoir de faux et même de foireux, d'empêchant. Et là, ça permet ça. Et écouter, pour moi, cette langue-là, ou une langue étrangère... écouter sans comprendre, accepter, comprendre que quelqu'un s'adresse à moi sans que je puisse avoir précisément la lettre de ce qu'il est en train de me dire.
La lettre au sens littéral maintenant.
Exactement. La lettre au sens vraiment très, j'allais dire, oui, un peu plus, voilà.
En même temps, vous avez plusieurs relations avec les langues étrangères parce que vous en parlez plusieurs des langues étrangères, donc vous en comprenez plusieurs. Donc vous avez votre langue qui n'est pas... langue maternelle qui n'est pas le français, mais vous maîtrisez le français, vous maîtrisez l'espagnol, oui. Vous maîtrisez l'anglais, au moins ces trois-là. Et Ensuite, il y a les langues étrangères, donc celles-ci que vous comprenez, puis les langues étrangères qui vous laissent étranger. Quelle est la différence entre le rapport que vous pouvez avoir avec le français, que vous comprenez d'une manière littérale, si tant est que ce soit toujours le cas avec le français,
oui,
les autres langues étrangères que vous comprenez parfaitement et les langues étrangères que vous ne comprenez pas du tout?
C'est intéressant comme question. C'est vrai que pour des raisons contingentes, je parle espagnol et l'anglais. Je suis bien content d'avoir pu. Ça m'a été très utile. Ça m'a été très utile pour projeter des choses sur les langues. Par exemple, l'anglais a toujours été pour moi une langue. Et je ne suis pas linguiste, donc je ne sais pas ce que je suis en train de dire au sens précis du terme. Mais sans doute un linguiste m'instruirait-il en me disant que ce que je dis est pas forcément vrai. Mais la perception que j'ai, l'image que j'ai de l'anglais, par exemple, c'est une langue dont la syntaxe est beaucoup plus souple que la syntaxe française telle qu'elle m'a été enseignée, on va dire. Et donc ça me permet de relativiser, ça me permet de dénévroser, de sortir d'une représentation, d'une perception qui peut être que par ailleurs. J'aime beaucoup lorsque je lis toutes sortes de choses, qu'il ne s'agit pas de rejeter quelque chose du français, mais qui permet d'altérer.
Est-ce que ça permet d'altérer plus facilement qu'en français? Vous parliez tout à l'heure d'une lettre qui est ce petit rouage de la machine, qui n'est pas un rouage creux qui contient, mais un rouage plein que l'on peut affecter,
oui,
et un rouage qui est le résultat d'une déconstruction de la syntaxe et de la langue telle qu'elle est transmise avec son ordre, avec son orthographe, avec la pensée qui la sous-tend. Si vous dites que la syntaxe anglaise, elle est plus souple, elle est plus libertaire pour vous, ça veut dire que vous avez moins besoin de la déconstruire? Ça veut dire que quand vous allez écrire ou parler en anglais, la nécessité de déconstruire ou de casser la syntaxe, elle va moins se faire sentir pour vous?
Absolument. Par contre, l'anglais ou cette perception-là de l'anglais va me servir pour, et je dis ce terme à dessein, pour affaiblir mon français.
Et en le traduisant?
Ça m'est arrivé lorsque j'habitais en Angleterre de traduire mes textes du français à l'anglais, rien que pour pouvoir les retraduire dans l'anglais au français. De leur inséminer quelque chose qui, dans le geste de traduction qu'il les refasse, à tous les sens de ce terme, quand on dit que quelque chose est refait, ou qu'on est refait soi-même. Et en passer par un détour, par... Et pour le coup, le chinois, mais ça pourrait être la même chose de l'arabe ou de toutes sortes d'autres langues. Là, c'est... Alors on voit évidemment ce qu'il faudrait éviter. On se dit, bon, il ne s'agit pas de faire de l'orientalisme, de sorte de... Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est cette simple notion que quelque chose peut... Beaucoup de choses peuvent être dites et passées sans compréhension. Sans compréhension au sens réductif du terme. Et qu'on peut... L'expression par rapport à la compréhension. Alors, une fois de plus, on peut tout à fait... Oui, si, c'est important de se faire comprendre et de comprendre les autres, etc. Mais sortir d'une surdétermination de ce niveau-là.
Vous parliez tout à l'heure de la plasticité de la lettre. C'est presque la première chose à laquelle vous avez été... sensible quand je vous ai fait cette proposition-là en début d'émission. Vous avez dit « je pense à l'unité lettre en termes plastiques ». Est-ce que vous diriez que dans votre tête, dans votre imaginaire, la lettre a une matière différente en français et en anglais, plastiquement?
Oui, parce que j'ai beaucoup plus de mal à voir et à me représenter les lettres en anglais. En anglais, je vois des phrases, des mots, je vois quelque chose qui est beaucoup plus souple.
C'est moins cassé.
C'est moins cassé, et puis surtout peut-être que... Mais là, ça devient... Il ne s'agit pas d'embêter les gens avec ma vie personnelle, mais ne serait-ce que l'orthographe. L'apprentissage de l'orthographe. Il y a toutes sortes... Ça peut être très très beau en français. Il y a toutes sortes de lettres, on ne sait pas ce qu'elles viennent faire. Enfin, même si on connaît l'étymologie des trucs, c'est quand même relativement, au bon sens du terme, arbitraire.
Un E qui traîne, deux L...
Et ça, c'est très très beau. Ça, c'est pour le coup, c'est vachement beau. Sauf que l'apprentissage qu'on a de ça... Peut quand même prendre un peu la tête, peut entraîner toutes sortes de trucs. Donc c'est pas du tout unilatéral, c'est très ambivalent, au contraire. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Tout cet arbitraire, c'est magnifique. Je trouve qu'il faut absolument le conserver, qu'il ne s'agit pas d'être purement fonctionnel ou purement utile, au contraire. Et en même temps, au sens vraiment de la représentation culturelle qu'une langue, qu'un pays se fait de son langage. Là, je vais vous parler de Proust ou de Kateb Yassine. Kateb Yassine, il dit qu'il écrit en français pour dire aux Français qu'il n'est pas français. Puis Proust sur la langue étrangère, ça, je ne peux pas ne pas être là-dedans. Enfin, je veux dire, écrivain, pour moi, ce n'est que ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement là-dedans. Donc, évidemment que c'est très beau, par exemple, l'arbitraire dont on vient de parler, de l'orthographe française. Et en même temps, il y a quelque chose qui peut être violent, et c'est très bien. C'est une violence dont on va se servir.
Mais vous qui maîtrisez trois langues alors, dans quelle langue vous dites que vous n'êtes pas de cette langue-là? Si Kateb Yassine dit qu'il écrit en français pour dire qu'il n'est pas français, alors vous, c'est quoi?
C'est en français.
C'est en français pour dire que vous n'êtes pas français?
C'est pas ça. Je sais pas si. En tout cas, je ne suis. C'est en français que. Pas pour dire que je ne suis pas français. Il se trouve que je. Oui, je suis pas. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être français ou quoi? Mais oui, oui, tout à fait, oui. Oui.
Français au sens de la langue, hein, pas de la
français
nation.
Au sens de la langue, français au sens de dire si je suis quelque chose au sens. C'est un vaste débat, mais oui, je voudrais que ça bouge, quoi, parce que sinon, que ce soit pas clair, que ce soit pas net.
J'écris en français pour dire que je suis flou dans mon appartenance à la langue française ou dans ma relation à la langue française.
Et que surtout, écrire, c'est bouger. Bouger. Bouger entre. Et pas être. Ça n'a rien à voir avec le verbe être. Ça a à voir avec le verbe courir, avoir des problèmes, mettre un coup de tête, aimer, être pris, mais certainement pas être.
Ça a à voir davantage avec la relation qu'avec la...
Ça a à voir avec faire. Ça a à voir avec faire, avec voir, avec aimer, être pris à tous les sens. Mais certainement pas avec être. Et c'est vrai. Proust a raison. C'est vrai que la langue française a une grosse, grosse névrose avec ça. Avec la culture française, de manière générale. Et je ne parle même pas des lois du dernier président. Enfin, je veux dire, tout ça est super lié. Et je crois que c'est pour cette phrase-là Kateb Yassine a vraiment raison dans cette phrase.
Parle. L'air.
Rer.
L'air.
Rer.
L'air.
Rer.
Le. Waxal le.
Le.
L'air.
Rer.
L'air.
Rer.
Da nga l'air. Waxal l'air.
Rer.
L'air.
Rer.
Le.
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 L'air.
Rer.
De waxuma rer de. L'air la wax.
L'air.
L'air waaw. L'air.
Rer.
L'air. L'air.
L'air.
L'air.
Ça n'a pas l'air facile. C'est un... Je ne sais pas, moi je n'ai pas l'image, mais dans ma tête, c'est un enfant qui essaie de prononcer des choses devant un adulte qui le corrigerait.
C'est deux petits-enfants dans une très belle vidéo de Henri Salat, qui s'appelle La Catte, qui est au Macval. Et c'est deux petits-enfants qui sont en train d'apprendre avec un répétiteur le Wolof. Le Wolof, c'est une langue sénégalaise. Et donc, ils sont en train d'essayer d'apprendre cette langue et le répétiteur leur fait répéter certains mots. Et ils ont du mal. Et cette vidéo est filmée donc dans une espèce plus que du clair-obscur, dans l'obscurité complète. Enfin, pas complète, mais...
On voit les visages ?
On voit les visages. Au moment où la caméra avance un peu, oui. Mais au début, on ne voit pas grand-chose. On a du mal à discerner. Et il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres qui Les gamins n'arrivent pas à répéter ce que le monsieur leur fait. Donc il y a le sous-titre du mot du monsieur, puis après il y a d'autres sous-titres à ce que les enfants répètent d'autres. Enfin, ne disent pas le bon entre guillemets mot. Et je trouve que c'est très très beau parce que à la fois par non seulement la qualité plastique du film, émotionnelle, etc., mais parce qu'en plus le fait que ce soit sous-titré introduit quelque chose qui du point de vue de la lettre est très intéressant parce que ça. On voit que des enfants essaient d'apprendre une langue, donc on voit une langue en train d'être apprise, avec toutes les difficultés que ça peut supposer, et nous-mêmes on est en train de lire. Et on n'est plus très clair sur ce qu'on lit, et est-ce que c'est la bonne traduction des choses. Qui plus est, cette vidéo a été faite en plusieurs... Salah a demandé à quatre pays de le sous-titrer. C'est sous-titré en allemand, sous-titré en anglais, sous-titré en français, une quatrième langue.
Mais ça veut dire qu'on peut... En tout cas, que là, il y a une idée de traduire l'erreur, puisque les enfants, si on suit l'idée d'un apprentissage, j'allais dire bête et méchant, ben je dis bête et méchant, ça veut dire qu'il y a un bon mot et un mauvais mot. Ça veut dire qu'il y a un traducteur qui se pose la question de comment on traduit un mauvais mot prononcé.
J'ai l'impression que c'est encore mieux que ça, d'une certaine façon, parce que vous avez dit traduire l'erreur, c'est que l'erreur traduise. C'est que l'erreur des gamins ou l'erreur des traducteurs. Qu'il y a du jeu, comme une porte qui n'est pas claire sur ses gonds, qu'il y a quelque chose qui... Il y a du jeu au sens d'un truc qui n'est pas axé complètement. Et qui permet donc d'abord de vivre, enfin d'exprimer de l'affect, des trucs qui ne sont pas clairs, des soucis, toutes sortes de choses, ou des joies, parce que ces gamins, ils sont magnifiques et leur voix est belle. Et la voix du prof est calme en plus. Enfin, il y a quelque chose de relativement doux là-dedans. Et puis exprimer toutes sortes de trucs. C'est-à-dire que sans cette espèce de jeu, sans cette case vide, on est mort. Enfin, je veux dire, on est très très mal barré, quoi. Et donc, c'est pour ça que je trouve que sur ce thème-là de la lettre, il faut surtout pas que la lettre coïncide. Sinon, ça va très mal se terminer, quoi.
En même temps, si ça coïncide pas, alors est-ce que vous diriez pour autant qu'il y a un espace entre la lettre et le réel?
Wow.
Parce que c'est quand même ce que vous dites. Si vous dites qu'il y a du jeu, il y a du jeu entre quoi et quoi alors?
Justement, je crois que ce qu'il y a, c'est du jeu au sens performatif. Il n'y a pas des substances à l'intérieur duquel il y aurait du jeu. Ce truc dont on se demande ce qu'il est, ce truc dont on dit est-ce qu'il y a quelque chose, c'est ça, c'est du jeu. C'est du jeu pur. Alors il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple des flics qui nous disent il faut parler comme ça, sinon vous allez en taule. Enfin, entre guillemets. Il y a aussi ça. Et donc ça, c'est peut-être ce que vous appelez le réel. Enfin, c'est quelque chose de très tyrannique et de très embêtant. Mais par là où la vie passe, où il y a de la vie qui nous permet d'en vouloir davantage, de rester en vie, c'est ça. C'est ce jeu-là. Alors, bon, il pourrait y avoir dans le studio-là un psychiatre qui me dirait, écoutez, monsieur, il y a des gens qui ont des soucis parce qu'ils ont... Et ça leur pose des problèmes, ils en souffrent. Donc c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui soit schizophrène ou qui soit XYZ et puis qui ne puisse pas du tout apprendre à parler, lire, dire et qui soit très embêté pour ça. Donc il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de généraliser au sens magique d'un certain point de vue, du point de vue de la langue, c'est-à-dire des systèmes qui existent. Il faut, j'ai envie de l'écarter de l'intérieur, quoi. Pour y mettre ce jeu-là. La question du réel que vous me posez, elle est cruciale, elle est très importante. Elle est très importante. Je ne sais pas ce que
c'est. Moi, j'aurais tendance à l'englober. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de jeu. S'il y a du jeu, il y a du jeu à l'intérieur du réel. Le réel comprenant la chose et le mot, la chose et la lettre.
Oui, vous avez raison. Oui. Je crois que le réel, oui, tout à fait. Ça doit être l'ensemble de ces trucs-là. Oui. Ça doit être les choses qui sont la lettre. Y compris dans son, lorsqu'elle est enforced, comment est-ce qu'on dit ça, lorsqu'il y a des flics qui la polissent très violemment, et puis la lettre, quand il y a des gens qui s'en échappent et qui produisent des échappées, vous avez raison en fait, oui c'est ça, c'est le tout à la fois. Là.
Il y avait dans vos vœux de son un extrait d'un film qui s'appelle La maman et la putain de Jean Eustache. Il se trouve que pour des raisons légales, on ne peut pas en passer un extrait. Pour des raisons temporelles, on n'aura pas le temps d'en dire grand-chose. En revanche, il vous revient de nous parler de cet extrait que l'on ne pourra ni entendre ni voir. À vous de jouer.
Ok, c'est très très beau ce film, 1972, à Paris, 4 ans après 68, en blanc et noir. Jean-Pierre Léaud, qui a 25 ans, 30 ans, est à poil dans un lit contre le mur. Il est cadré en plan américain et il parle à Bernadette Lafont, qu'on ne voit pas. Ils viennent de faire l'amour. Le personnage d'Alexandre, joué par Léo, Jean-Pierre Léo, passe son temps à parler de trucs et d'autres. Et il raconte qu'il y a quelques années, il était en bagnole entre Paris et Marseille, et il s'est endormi sur l'autoroute parce qu'il a, je le cite, ces trucs qui défilent. J'imagine qu'il doit parler de la bande d'arrêt d'urgence et des bandes blanches. C'est hypnotique, ça l'endort, il s'endort. Et il voit, et là aussi je le cite, « J'ai pas rêvé, j'ai vu ». Le Parthénon, la Tour Eiffel, toutes sortes de trucs sous forme de ruines. Et les gens marchaient et on ne savait pas où ils allaient. Ils partaient n'importe où, comme à la fin des films de Charlie Chaplin. Et il s'est réveillé parce que sa voiture a heurté la bande d'arrêt d'urgence. Et après, il dit d'autres trucs, etc. Mais ce qui me plaisait énormément dans cette scène, et Eustache est un cinéaste prodigieux pour ça, c'est que c'est pas qu'il filme le langage. C'est qu'il nous montre comment le langage lui-même peut être une caméra. Une espèce de caméra virtuelle abstraite qui produit des films. Pas au sens où on se fait un film parce que quelqu'un dit quelque chose de très curieux. Parce qu'il reproblématise complètement la relation entre le visible et le disible. Et qu'entre les deux, il y a une indécision. Et que cette indécision, c'est le lieu de la voyance politique, dans le cas du film de Eustache, mais de la voyance tout court, où on peut inventer des trucs. Lorsqu'on est indiscernable, lorsqu'on est entre chien et loup, lorsqu'on n'est ni là ni ici. C'est pour ça que cet extrême me plaisait beaucoup, parce que ça montre une très très forte puissance de la lettre, une puissance de voyance de la lettre, au sens de la fabulation.
Petite pause dans votre sélection sonore, mais c'est pour mieux y revenir tout à l'heure. Cette semaine, grâce au choix de Laurette Nobécourt, nous avons découvert ou redécouvert l'œuvre d'Edmond Jabès, ce poète de langue française né en Égypte. Toutes mes excuses car j'ai annoncé hier un poème extrait du livre des questions. C'était vrai pour les trois premiers jours, mais c'était totalement faux pour hier. Il n'en était rien. Il s'agissait d'extraits du livre de Yukel, dont est encore tiré le texte qui nous est lu aujourd'hui par Éric Ruff de la Comédie Française, que l'on écoute.
Le ciel est à portée de la main de l'enfant. Il échappe à l'adulte, mystère de l'enfance. À 12 ans, j'avais perdu le ciel. J'ai, depuis, employé ma meilleure énergie à m'en approcher. C'est dans la plus petite main que le ciel se réfugie. Une main d'homme s'affermit contre ciel. J'observe mes paumes. Toutes les routes suivies par mes ancêtres y sont indiquées. Une carte complète de l'Exode. J'aimerais dans mes écrits que ma main d'enfant avec l'azur et ma main d'homme avec les déserts s'alliassent. Parole de lait et parole de sang. On n'est jamais tout à fait sûr de son âge. Ainsi le temps traverse le temps et s'abolit où Dieu se tait. Nous vieillissons par le Verbe. Nous mourons de nous traduire.
Jérôme Gamme, j'avais dit qu'on y reviendrait à cette carte blanche sonore et musicale. Il se trouve que le détour par Edmond Jabès a été fort heureux, puisque de manière hasardeuse, très très concordant avec notre propos, vous terminez avec...
Avec India Song, chanté par Jeanne Moreau, mais le texte de Marguerite Duras. Parce qu'elle dit que ça ne veut rien dire et que ça dit tout. Et que donc dans ce qui a l'air d'être une contradiction, un paradoxe, il y a tout simplement la puissance d'expression du langage. Et parce que la puissance de mélancolie de Duras et la voix de Moreau sont absolument sublimes.
Il se trouve, Jérôme Gamme, que paraît en octobre DQ/HK, ou deux livres en un. Vous avez quelques secondes pour nous mettre en appétit. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de poésie sonore, un travail que j'ai fait ici à France Culture, à l'atelier de création radiophonique sur Hong Kong, où je m'étais rendu pour enregistrer les choses et écrire sur Hong Kong et le cinéma de Hong Kong. Et puis d'un spectacle que j'ai fait avec pas mal de gens que je n'ai pas le temps de citer maintenant, mais qui était à la Gaîté Lyrique il y a un an sur Don Quichotte. Et donc c'est un double livre de poésie sonore.
Et c'est publié aux très belles éditions de La Tente. Un grand merci, d'avoir signé pour nous cette carte blanche sonore et musicale sur la lettre. Je n'ose vous dire à bientôt.